Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Thomas Rebaud a le débit rapide. À la tête d'une plateforme qui met en relation des photographes et des entreprises, il est habitué à prendre beaucoup de décisions et rapidement. Il y a 9 mois, en juin 2019, il convainc en quelques semaines des investisseurs de miser 205 millions d'euros sur son entreprise et l'aider à devenir ainsi une licorne, ces entreprises dont la valorisation excède le milliard de dollars, mais qui sont encore si rares en France. Avec le recul, il regrette d'avoir communiqué sur cette opération, mais revendique la folle ambition qui le pousse. Concentré sur cette entreprise qui lui a permis de changer de dimension et d'entrer parmi les entrepreneurs les plus en vue de la French Tech, il déborde d'envie, de projets. Il me reçoit chez lui, dans l'Est parisien, et évoque tous les sujets sans esquive. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos, et vous écoutez Take Off. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Thomas Rebaud. Thomas, bonjour. Merci de me recevoir pour Take Off. Et on va démarrer tout de suite avec la première question que je pose à chaque fois à mes invités, à savoir quelle est ta routine matinale ?
Ma routine matinale, elle est pas hyper écolo, mais je me lève entre 5h et 8h du matin, ça dépend honnêtement des journées, et je prends un bain relativement froid dans lequel je reste une heure. Ouais, c'est relativement froid, dans lequel je passe 20-25 minutes à rien faire du tout, donc à penser à la vie, et 35 minutes à travailler. Donc après 20-25 minutes où je fais rien du tout, vraiment rien, mon cerveau se réveille, et après je prends mes mails, je commence à envoyer mes premiers mails de la journée, pour être sûr que les gens arrivent au bureau avec, avec les réponses ou les questions pour leur début de journée.
D'accord, voilà. Et on en parlait un petit peu avant, mais dans ta routine matinale, il y a quelque chose que tu ne fais pas, que font beaucoup de gens, c'est-à-dire manger. Est-ce que c'est pourquoi c'est important et comment t'en es arrivé là ?
Ah oui, bon, alors je veux pas. Chacun fait sa vie. Je veux pas lancer des grands débats. Mais je considère ce qu'on fait comme un sport, ce que je te disais. C'est assez physique. On a des problèmes de stress, de tension, etc. Il faut être en forme tout le temps. On a souvent des problèmes de sommeil. Enfin, c'est un profil qui souvent. Enfin, plein de trucs dans la tête, donc tu dors pas très bien dans l'ensemble. Hein, une petite nuit. Et donc, je surveille mon alimentation comme le ferait un sportif, pour être franc. Et il se trouve. Donc, je mange plutôt très bien. Et dans ça, il se trouve effectivement que je fais un jeûne intermittent depuis un petit bout de temps maintenant. Et donc, je ne mange pas le matin. Je mange entre midi et demi et 20h. Et le reste du temps, je ne mange pas. Et je le fais parce que... mais encore une fois, je ne veux pas faire le prophète sur ce sujet. Mais je le fais parce que tu as un gain d'énergie quand tu fais ça qui est vraiment lunaire.
Toi, tu l'as senti vraiment rapidement ? Le changement, ouais.
Tu galères un peu à ne pas manger le matin pendant 3 jours parce que tu as faim. Au bout d'un moment, ton corps il se régule, donc tu n'as plus faim. Et tu as un gain d'énergie. Ouais, c'est incroyable, quoi. Vraiment. C'est un changement de vie. Tu n'as plus le coup de barre à 10h. C'est vraiment un changement de vie. Donc, on me l'avait dit, on me l'a prêché un peu comme ça. On te le dit pendant 4 ans. J'ai beaucoup, beaucoup lu sur ces trucs-là, etc. À un moment, tu dis, je vais le faire. Ça ne va pas me coûter grand-chose de ne pas bouffer pendant 3 jours. Donc, tu le testes. 3-4 jours, 5 jours, la semaine d'après, tu continues un peu, etc. Et puis, tu te rends compte, effectivement, parce qu'il faut quand même s'auto-analyser, que jusqu'à midi et demi, 13h, tu pètes la forme. Quoi. Tu te dis, j'avoue quand même, je suis en forme, alors j'ai dormi 2h. Et en fait, tu recommences plus jamais à manger. Quoi. Et j'ai mis quand même pas mal de gens à ça. Hein.
C'est vrai ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent et qui arrêtent. Hein. Preuve potentiellement est, empiriquement, que c'est pas déconnant, que ce gain d'énergie n'est pas juste deux illuminés qu'on fait un journal sur lequel il y a 3 avis opposés et que du coup, en fait, tu peux rien en tirer. Dans les faits, si tu essayes de pas manger, mettons une semaine le matin, et vraiment dit tiens, vraiment c'est chouette quoi. Bon, en plus de perdre du poids, etc., sûrement, mais ça c'est un autre sujet.
D'accord. Donc on va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard, mais on va parler évidemment de Miro. Il y a maintenant un peu, environ 6 mois,
tu as levé un très très gros montant, 230 millions de dollars. Ta perspective 6 mois après, le fait de l'avoir annoncé, ça t'a mis dans la lumière, ça a mis Miro dans la lumière. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Miro, sur toi, sur le business de la plateforme. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait ?
Est-ce que je regrette de l'avoir fait ? Donc de l'avoir annoncé.
De l'avoir annoncé, pas d'avoir levé, évidemment.
D'avoir levé, non. De l'avoir annoncé, je ne sais pas si je regrette, mais en tout cas, ça ne m'a pas apporté grand-chose de bien, c'est certain. Il y a un peu d'ego trip quand tu fais une levée de fonds. Tu es content d'avoir fait une belle levée. Tu as un peu envie que ça se sache. Donc il y a un petit côté personnel, je pense, que tout le monde a. Moi aussi. Donc déjà, c'est un premier point. C'est pas évident de pas le dire. Parce que t'as envie un peu. C'est une prouesse en fait. Quand tu fais une prouesse, que tu gagnes un truc, encore une fois, dans un sport, ou que tu fais un truc, t'as envie un peu d'en parler à tes parents, à tes amis. T'as les gars, j'ai réussi à faire ça, c'est vraiment super. Donc t'as un peu de ça. En général, ça t'apporte par ailleurs, niveau business, donc t'as envie de l'annoncer, parce que ça t'apporte des choses, notamment de la crédibilité auprès de grands groupes. Ils comprennent que t'as du cash et que tu vas pas mourir demain, donc ils peuvent t'ouvrir des carnets de commandes. Moi, de mon côté, je suis en B2B, je suis pas en B2C. Ça m'a apporté quelques clients. Je sais pas si ça m'a apporté quelques clients, mais ça m'a peut-être aidé à signer quelques clients. Mais après, ça m'a quand même apporté beaucoup de négatifs. Donc, ça a mis la lumière sur la boîte. Ce que je te disais la dernière fois, c'est que quand tu commences à avoir des grosses sommes d'argent dans l'œil de pas mal de personnes, tu deviens pas bien. Mais il n'y a pas de raison rationnelle. C'est que tu te lèves un matin et je te disais qu'on m'appelait beaucoup dans des articles ou dans des gens, des posts Facebook, des trucs un peu partout. On parlait de patron et puis de CEO ou de, on parle de PDG, surtout patron si tu veux. Tu vois les mots qui, le vocabulaire tout bête, il change, tu vois. Et je sais pas pourquoi depuis cette levée de fonds, un peu tout ce qu'on fait auprès d'un certain groupe de personnes, c'est pas très bien vu quoi. Mais je sais pas pourquoi. Alors qu'on est toujours la même bande de d'enfants si tu veux, de 25, 30, 35 ans. Mal habillé, qui galère. Bon, les locaux sont mieux, si tu veux, mais bon, qu'on soit dans un local à 6 mètres carrés, ça change rien. Et enfin, en train de faire des blagues un peu débiles toute la journée, en train de travailler matin, midi et soir, et prendre des bières le soir. Ça, on n'a pas changé, quoi. Et sauf que, bah si, maintenant t'es un patron, donc tu gères 800 personnes. Du coup, t'es censé, je sais pas, mettre un costard, quoi. C'est un peu ça dans la tête des gens. Tout ça parce qu'il y a eu de l'argent de lever. Et puis accessoirement, les gens du coup ont l'impression qu'on réussit dans ce qu'on fait. Ce qui est vraiment complètement faux. Je fais d'ailleurs pas un très beau trimestre, accessoirement. Donc je dois revoir pas mal de choses là. Lever du cash, ça veut juste dire que t'as eu une très belle trajectoire. Ça, c'est sûr qu'on a eu une très belle trajectoire de revenus, assez exceptionnelle au sens de exception. Et que moi, à titre personnel, j'ai bien levé. Donc je sais lever, je sais comment mener ma barque lors d'une levée de fonds. Ça veut dire ça. Mais après, derrière, la boîte, tu peux la planter 2 ans après. Enfin, c'est encore du venture. Enfin, ça veut absolument rien dire.
La prise de risque est quand même très forte de la part des investisseurs. Et c'est
bien sûr. La prise de risque est très forte. C'est une prise de risque. Ils pensent, donc un investisseur, ça veut faire un retour financier. Ils ne sont pas là pour aider le monde. Et c'est très bien. Donc après, nous, on a notre propre mission. Il y a des boîtes qui sont plus ou moins mission-driven. Nous, on fait des trucs qui sont, je pense, assez cool. En tout cas, on va essayer de faire des trucs qui sont assez cool pour une partie des gens, des créatifs. Et donc, la plupart de la... Il y a une grosse partie de la boîte, ils viennent du monde de la créa, etc. Donc, tout le monde se reconnaît un peu là-dedans. Mais le fonds d'investissement, lui, il investit sur une valeur de 1, il veut sortir à 5, point. Donc la question, lui, c'est dans 4 ans, Thomas, comment t'es à 5 point. Et moi, mon métier à moi, c'est d'être à... C'est comme ça, chacun son métier, si tu veux. Et après, derrière, je tente d'aller dans le sens de la mission, parce que je pense que la mission améliore la valo. Et voilà. Mais
tu l'avais anticipé, ce backlash un peu, ce retour un peu négatif, ou
non.
Pas du tout?
Alors, vraiment, pas du tout, du tout.
Parce qu'il n'y a pas de... Je réfléchissais, je reprenais un peu les grosses levées de fonds. J'ai pas vu, à part peut-être un peu sur Blablacar à un moment donné, qui a eu aussi un gros retour négatif, mais je vois pas de grosses levées sur qui il y a eu vraiment autant de. Qui a catalysé autant de mauvaises presse, entre guillemets.
Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, il n'y a jamais eu une levée aussi grosse déjà. Donc, quand j'ai levé 45 millions il y a un an, j'ai pas eu de retour négatif. C'était déjà une très très grosse levée de fonds, surtout en France, mais ça n'a pas particulièrement ému les foules. Là, on parle d'un montant beaucoup plus gros. Donc, d'une certaine façon, je ne connais pas le seuil de sensibilité des gens, mais là, on est passé un cap en mode bon. Ça, c'est le premier point. Donc, potentiellement, il faut déjà avoir fait une très grosse levée de fonds pour que ce réflexe, peut-être humain, intervienne. Ensuite, moi, je suis dans un métier où j'ai une partie de mon métier qui fait du on-demand. Et donc, qui dit on-demand, un truc à la demande, c'est comparé souvent à Uber. Et comme les prestations que je fais aujourd'hui sont à des prix plus bas que la prestation que des photographes vendent eux-mêmes, ça donne l'impression que je baisse les prix Alors qu'en réalité, encore une fois, en taux horaire, je ne les ai pas du tout baissés, mais peu importe, sur le sujet de fond. Et du coup, il y a tout d'un coup le mot ubérisation qui se fout dans des articles. Mmh. Et alors là, c'est le drame. Mmh. Et le problème, c'est que tu as des articles qui sont écrits, ça fait 2800 caractères, je me suis prêté à l'exercice récemment, tu n'as pas le temps de dire beaucoup de choses, voire probablement ceux qui écrivent n'ont pas forcément le temps de creuser vraiment, accessoirement. Et puis, tu n'as pas vraiment de droit de réponse. Enfin, tu fais une réponse, tu veux qui n'est pas lui, tout le monde s'en fout. Et donc, concrètement, tu prends beaucoup de choses dans la tête et en fait, tu ne peux jamais vraiment communiquer auprès de ceux à qui tu fais de la peine. Et ce qui se passe dans les faits, c'est que du fait de parutions qui sont pas mal intentionnées, mais qui sont, parce qu'il y en a qui sont mal intentionnées, mais qui sont juste leur traduction des faits, genre en mode Uber, Miro potentiellement ubérise la profession, c'est complètement faux. Et bah, de fait, du coup, tu as une population qui est ma population, les photographes, qui au lieu de dire trop bien, il y a quelqu'un qui vient m'aider pour telle et telle raison, sur tel et tel sujet, en mettant des fonds colossaux que personne ne peut mettre, ils disent, il y a un mec qui arrive et qui est en train de tuer ma profession. Quoi. Il dit ça, tu sais qu'il le pense, donc il y a une partie de photographes, c'est très français, hein, c'est pas grave, mais qu'il le pense et t'as envie de répondre, tu lui réponds comment ? Pas commencer à écrire.
Par quel biais ? Ouais.
Voilà, donc tu fais des médias de temps en temps, comme ceux-ci par ailleurs, mais qui sont par ailleurs pas forcément extrêmement écoutés par ma population. Et puis, et donc t'accumules ces deux sujets, et effectivement on a pris un peu, en France, on a pris un peu plus que les autres. Puis après, du coup, t'as des commentaires glace d'or, bref, tout prend des proportions absurdes, quoi. T'as des articles qui sont écrits, qui parlent que de moi. Et je ne sais pas pourquoi. Ils me font tout au carré, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme c'est le jeu.
Ouais. Mais tu dis, c'est très français. Là, j'étais en voyage à New York il n'y a pas si longtemps. Je parlais à des investisseurs de bon niveau. Ils n'avaient que Miro à la bouche. C'est-à-dire la boîte française, c'est Miro, c'est extraordinaire ce qu'ils font, même si c'est assez facile à comprendre ce que tu fais. Donc quand je dis qu'ils n'avaient qu'à Miro à la bouche, c'est-à-dire que c'était positif. Pour eux, ils disent, c'est une super boîte.
Déjà, on fait beaucoup, beaucoup de trucs, donc je pourrais dire ce que je fais, mais donc c'est pas si facile que ça.
On va revenir après,
partie que tout le monde lit, sur laquelle ça prend un tiers de la boîte, tu veux. Bref, donc c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, dans le secteur, parce qu'un investisseur à New York, il se moque quand même pas mal que Libération ait écrit un article. Du coup, côté investisseur, bien sûr, les gens regardent Miro. Après, encore une fois, ils regardent Miro notamment. Bon, il regardait ça avant, il regarde d'autant plus ça après, parce qu'on a fait une grosse levée. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on va réussir. On va vraiment être très clair. Donc, que tout le monde parle de nous dans le microcosme qui nous réunit, bon, je suis content, tant mieux, mais ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'en fait, que les fonds d'investissement parlent de moi, pour mon ego, c'est sympathique, mais de toute façon, comme je n'ai pas rentré, parce que je n'ai pas besoin d'argent, ça ne m'apporte absolument rien. Donc, à ta question, que m'a apporté le fait de publier ça ? D'ailleurs, il y a un fonds d'investissement chez moi qui ne voulait pas que je publie le truc. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Franchement, pas beaucoup, pas grand-chose. Un peu d'ego trip, quelques clients.
Un vrai regret quand même ou pas ?
De l'avoir dit ?
Ouais.
Je sais pas, parce que, encore une fois, c'est ça, il faut cerner le perso du pro. À titre personnel, t'as accompli quelque chose et c'est agréable. T'as pas du tout accompli l'entreprise, t'as accompli un des steps de l'entreprise. Et en vrai, bien sûr, c'est agréable, c'est plus agréable de réussir que d'échouer. Enfin, et puis j'ai échoué beaucoup de fois avant, donc quand t'es réussi, t'es content. J'en parle volontiers, mais des trucs que j'ai mal fait, donc j'ai aussi envie d'en parler, des trucs quand c'est bien fait. Donc je sais pas si je regrette, parce que d'une certaine façon, à titre perso, je suis quand même content d'avoir atteint ça et de fait d'en parler. À titre pro, ça ne changera pas l'avenir de ma boîte, pour être très franc. Par contre, c'est vrai que j'ai tous les syndicats de la profession de la photographie en France qui me ciblent, qui n'écoutent pas mes réponses, tout le monde s'en fout. Et du coup, je me bats un peu au quotidien. Difficilement, je rame à contresens pour essayer de les convaincre qu'on va tous dans le même sens et que ça va le faire, en fait, parce que dans les faits, ça va le faire. Et ça, si je n'avais pas annoncé cette levée de fonds, je me serais enlevé 2-3 difficultés, ça c'est sûr.
Alors justement, tu parles de « on va le faire », mais alors qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'on connaît Miro sur l'aspect de mise en relation entre une entreprise et un photographe. Donc justement, explique-nous un petit peu aujourd'hui ce que fait Miro. On connaît la partie mise en relation entre entreprise et photographe, mais qu'est-ce que Miro fait au-delà de ça ?
Donc nous, on essaie d'améliorer le métier de photographe. Donc ça veut dire en partie leur trouver des revenus, mais pas que, et sur la partie revenus. C'est un métier, comme tous les artistes, toutes les professions, tous les intermittents, etc., sont des métiers qui sont compliqués, où trouver un job, et souvent les artistes, accessoirement, ne sont pas des très bons commerciaux, donc la partie revenu est un des vrais sujets. Donc on a cherché, et on cherche encore aujourd'hui, des nouvelles sources de revenus, et non pas des sources de revenus qui existaient déjà, type B2C classique, où tu vas chasser sur leur propre terre, et ce sont des sujets assez compliqués à traiter. Donc on allait trouver des clients qui avaient des besoins qu'on dit scalables, donc concrètement des besoins de photographie répétés sur en volume, sur plein de pays ou de villes en même temps. Mmh. Concrètement, un photographe, il n'a pas accès à ces clients-là. Je vais te prendre... enfin, bon, je dis n'importe quoi, je vais te prendre Allo Resto. Mmh. Il se trouve qu'on travaille avec eux, mais c'est un exemple au hasard. Allo Resto, ils vont te dire, bon, on travaille dans... Et là, encore une fois, je dis n'importe quoi, je ne connais pas les chiffres. On travaille dans 28 villes en France. Il nous faut une personne pour gérer tout ça, parce que sinon, ça, c'est compliqué pour nous. Et du coup, nous, on intervient. Il se trouve évidemment que sur ces sujets-là, d'abord, les entreprises, un, n'ont pas des paniers, n'ont pas des possibilités de paiement par reportage très élevées. Donc, ça va être entre 80 et 120 euros, ce qu'ils sont capables de payer, parce que comme ils vont en prendre 4000, mmh. concrètement, ça fait déjà des budgets énormes pour eux. Et que comme il y a du volume, ils disent, bah attends, effectivement, à l'unité, c'est 140 euros, mais si je t'en prends 1000, ça va être 110. Mmh. Bon. Et en plus, ça implique en plus que du coup, de notre côté, si on veut traiter le sujet, il faut qu'on industrialise un petit peu certains procédés, et notamment la retouche. Et donc concrètement, le sujet a été comment est-ce qu'on fait sur cette partie apport de revenus en plus pour faire des prix qui correspondent à ce que les clients sont prêts à payer. Sinon, il n'y a pas de business, point barre. Mm-hmm. Et deuxièmement, comment on industrialise un maximum de choses de sorte à ce que le photographe, du coup, qui lui va prendre 50 euros, si on a un reportage à le resto, ça va être entre 45 et 60 euros selon le sujet. Du coup, pour pas qu'il travaille 2 heures comme avant, mais qu'il travaille plus que 45 minutes, 1 heure, ça dépend des sujets. Hein. Mmh. Et du coup, le taux horaire, il s'y retrouve au taux horaire, même si au global, la prestation est moins payée, mais par heure, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on a développé, c'est ce que tu vois sur Internet, c'est ce qui fait que les gens nous comparent à Uber, complètement faux. C'est simplement qu'on fait du, et je pourrais répondre à ça plus tard, ce qui fait qu'on fait du à la demande. T'as un mec qui t'as une personne chez Allo Resto qui fait une demande de reportage demain à Amiens, et il y a un photographe qui vient le lendemain via une application mobile, une application tout court. Ensuite, mais si tu parles du fait d'améliorer le métier de photographe, ça ne prend pas simplement en compte le revenu. Du coup, on a essayé d'aller un peu plus loin. Bon, d'abord, on a une deuxième brique indépendante de tout ça, qui est l'image, qui est la technologie. Et concrètement, tout ce qu'on a développé pour pouvoir gérer les flux de photos que je viens de te citer, ne t'endors pas.
Non, vas-y, continue. Je suis très attentif.
Plus là, je m'arrête. La réponse, on fait beaucoup
c'est
de trucs.
C'est important de rentrer dans le détail.
Ouais, c'est ça. On n'a jamais vraiment le temps de prendre 3 minutes de dire une
ce
phrase.
Ce podcast est là pour ça. Yes.
Et donc, on fait la technologie qu'on a développée, on commence à la vendre à des clients. Donc, typiquement, je vais te prendre une marketplace type Sologer, pour rester en France. Et ils ne créent pas leur contenu, c'est des brokers ou des agents immobiliers qui le mettent en ligne. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, c'est pas très joli, et qu'en plus, ils n'ont aucune donnée sur ce qui est pushé en ligne. Tu sais pas si c'est une cuisine américaine, si tu veux, sauf si l'agent immobilier clique dessus, enfin indique que c'est une cuisine américaine, mais il le fait pas. Bon. Et du coup, nous, concrètement, on dit, toutes vos images, là, elles passent par nous, via un flux qui vient chez nous et qu'on vous renvoie, et on les traite à la volée en 2-3 millisecondes, et on vous les retouche. En plus, vous donnez des informations dessus, de sorte à ce que concrètement votre site soit plus joli. Et quand tu as une image qui est améliorée via retouche de façon substantielle, ton taux de clic, donc tes consommateurs qui vont être sur Sologer.com, un, l'expérience est plus jolie parce que le site est plus beau, et puis deux, tu cliques plus souvent parce que l'appartement te donne plus envie, parce que l'image est plus belle. Et donc en fait, tu augmentes tes ventes pour Sologer. Ça, c'est le deuxième pôle. C'est un pôle tech qui est assez intense chez nous, qui à la fois gère notre business, parce que pour pouvoir gérer des shoots en Alaska, au Pérou et aux États-Unis, je te passe la partie produit et technologique. Et tu as aussi la partie image, qui est pour moi quelque chose de très important, qui est une partie de l'avenir de la boîte. Et puis troisièmement, tu as comment est-ce qu'on rentre dans le métier de photographe et qu'on tente de les aider sur l'intégralité de ce qu'ils font à côté. Et donc là-dedans, tu creuses, tu fais des workshops en interne, tu fais les gars, c'est quoi qu'est-ce qu'un photographe fait au quotidien, où sont les pain points, qu'est-ce qui manque. Et donc, tu arrives sur des sujets, tu dis, bon, d'abord, il leur faut du contenu. Il leur faut de l'inspiration, parce qu'en fait, quand t'es passionné par ton métier, t'as besoin d'être inspiré, etc. Donc moi, j'ai énormément de livres sur l'entrepreneuriat et tous les personnes que j'admire sur ce secteur. Et apparemment, pour un photographe, il va regarder des documentaires ou il va lire des choses sur des photographes de renom. Et troisièmement, leur compta, leur marketing et tout leur portfolio, l'impression des images, tous ces trucs-là sont pas très bien faits ou sont faits par des constellations de personnes non reliées entre elles. Comment est-ce qu'on met tout ça en même temps et en endroit? Et donc on a développé un département qui fait du contenu écrit avec un magazine qui s'appelle Blind. On a développé un département qui fait des documentaires Netflix style, si tu veux, des gros investissements là-dessus, plus des formations en vidéo avec des photographes de renom. Et on a développé un département qui fait du software, donc qui leur dit votre contrat, votre gestion des droits sur l'image, je reparlerai de ça plus tard, sujet de droits d'image, mais etc. Aujourd'hui, vous le faites manuellement sur Excel, c'est pas très bien fait, c'est souvent pas dans la loi d'ailleurs, etc., etc. Bah en fait, tout ça est fait online via un produit qui est hyper simple et qui permet de le faire facilement, gratuitement, by the way.
Tout ça, c'est des centres de coûts pour Miro.
C'est du pur investissement. Comment je justifie ça à des investisseurs? Je leur dis que pour l'instant, c'est du pur investissement, donc c'est des millions et des millions d'argent qui sont investis par an là-dessus. Mais qu'à terme, si pour eux, vu que leur seul métier à eux, c'est de faire un retour sur investissement sur l'argent qu'ils ont mis, c'est que ça apporte de la valeur à la boîte, que ça crée un écosystème sur lequel les photographes vont vraiment être aidés dans leur quotidien, donc vont adhérer à l'ensemble de l'écosystème qu'on a créé, donc seront plus actifs chez nous, etc. etc. et que donc à terme, ça apporte de la valeur à la boîte. Même si tout de suite, financièrement, ça creuse des pertes, ça crée des pertes, je leur explique qu'à terme, ça va être... Et peut-être que je me trompe. Encore une fois,
ça fait partie du pari.
Énormément de paris. Là, on vient de lancer du coup sur la partie revenus, le mariage et le e-commerce. Ce sont des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Le mariage, on monte les prix au lieu de les baisser comme on a fait côté client jusqu'à présent. Le e-commerce, ni on les monte ni on les baisse. On tente de mettre de la technologie avec pas mal de trucs à faire là-bas sur ce sujet. Mais ce sont typiquement des paris, quoi. Il n'y a pas de. Donc on verra. Et peut-être que l'e-commerce ne marchera pas du tout et le mariage, ça cartonnera. Peut-être que le software, en fait, ça, les photographes n'y adhéreront jamais vraiment parce qu'ils sont habitués à leurs fichiers Excel et qu'en fait, ça leur va. Peut-être que les documentaires, ça ne leur plaira pas. Peut-être que la technologie, j'en sais rien. Donc c'est faire plusieurs paris, y mettre les bons moyens, pas faire n'importe quoi avec l'argent qui est disponible. Être très très bon sur les dépenses, avoir un mindset, une culture dans la boîte de gestion des coûts vraiment parcimonieuse.
Parce que ça, c'est aussi ce qui peut souvent arriver dans une startup qui a levé beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous avez, la croissance a été tellement rapide que la gestion des coûts est quand même avec le cash dispo n'est pas forcément une priorité. Ouais. Toi, au sein de Miro, tu essayes d'inverser ça justement.
Alors, ça n'a pas été une priorité jusqu'à présent, c'est en train de le devenir. Ça fait 2 mois qu'on travaille là-dessus. On est en train de rechanger énormément de choses côté process dans la boîte. Ça n'a pas été encore implémenté, mais on travaille dessus. C'est très compliqué parce que tu as des millions de lignes de coûts, si tu veux. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Mais effectivement, quand tu as en levée de fonds, c'est la croissance le sujet. Donc, tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas croître très, 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 très vite et en même temps aller embêter la personne au fin fond du département de, je sais pas, de la comptabilité ou peu importe, parce qu'il a dépensé un avion 100 euros trop cher. Tu n'as pas le temps de faire ça. Donc, tu fais un choix. Là, maintenant qu'on a fait notre tour et qu'on sait qu'on ne relèvera pas d'argent tout de suite, on peut se refocaliser sur potentiellement faire un tout petit peu moins de croissance, mais sur les 12 prochains mois, rendre le truc un peu mieux, un peu plus...
efficace.
Pour remplir un anglicisme healthy un peu. Et donc, contrôler un peu mieux les dépenses, mettre des process, etc. Sans devenir une boîte trop lourde, on peut se refocaliser sur... Sur ce genre de sujet, et alors qu'effectivement, quand t'as enlevé de fonds, tu vas toujours plus vite, t'as pas le temps. T'as des boîtes comme Uber, et comme WeWork d'ailleurs, enfin, c'est des boîtes dont on parle beaucoup en ce moment, qui malheureusement doivent, parce qu'ils ont des investisseurs de leur côté, etc. C'est tellement la course à la croissance, quand tu rentres dedans, dans le détail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ils n'ont pas eu le temps de processer, d'automatiser, parce que tu peux pas tout faire en même temps. Et parfois, c'est un peu étonnant. Tu vois comment ils font tel et tel sujet, tu rentres en détail et tu dis, putain, c'est quand même très manuel cette histoire. Je suis étonné qu'à ce niveau, après, ce sont encore. Et en fait, parce qu'ils n'ont pas le temps, quoi.
Il n'y a pas le temps. Juste pour aller un cran plus loin sur ce sujet, dans le temps qui a été alloué à Miro pour sa croissance, tu as rapidement internationalisé. Et donc, ça, c'est un sujet qui, pour moi, est crucial à chaque fois. C'est-à-dire, comment tu internationalises en maîtrisant quand même un minimum les coûts. On s'était parlé sur la Chine. Tu disais que ça te coûtait des sommes astronomiques. Est-ce que tu peux nous décrire le process, peut-être en commençant par la Chine?
Les coûts, encore une fois, ce n'était pas forcément mon focus. Ça ne veut vraiment pas dire qu'on fait n'importe quoi. On est un peu des maniaques j'aime vraiment pas les factures qui sont trop chères pour rien. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Mais néanmoins, tu vas prendre un cabinet comptable chinois, ça va te coûter 30 000 euros, etc. Puis, ce n'est pas que tu fais n'importe quoi, c'est juste que c'est les coûts. Si tu vas aller en Chine, tu as des coûts. Moi, j'ai eu besoin de faire ça, en tout cas d'aller très vite à l'international, parce que je suis allé en année, au bout de 18 mois, j'ai commencé à ouvrir des trucs un peu partout. Donc c'est très rapide parce que j'ai fait le choix d'aller cibler des acteurs qui ont des besoins globaux de photos, de contenu, versus ce que j'ai commencé tout au début mais qui n'était pas le bon play, versus aller voir des acteurs hyper locaux, genre à Paris, qui ont besoin de photos un petit peu, mais où là t'es en compétition justement avec des photographes traditionnels. Du coup tu dis, en fait j'apporte pas énormément de plus, en tout cas pour l'instant, à moins de changer beaucoup de choses dans le produit, j'apporte pas énormément en plus, j'apporte un peu sur ça, ça dépend des sujets, mais bon. Et du coup, en fait, j'ai pas me focaliser là-dessus, je vais me focaliser sur des sujets globaux. Et donc, ça veut dire être à l'international très rapidement. Donc, je suis parti là-dessus. Comment j'ai fait, moi? D'abord, on a commencé à faire des reportages un peu partout, en pilotant ça de Paris. Donc, en fait, on faisait les night shifts, si tu veux. Il y avait des gens à Paris le matin et le soir. Et puis, on avait des relais locaux en free, en Amérique latine, en Asie, aux États-Unis, etc., qui géraient pour nous sur place. Mais c'était du freelancing, c'était pas du... Donc on a géré l'international de Paris. Au bout d'un moment, tu signes 5 millions de contrats aux États-Unis. Tu te dis, bon, bah là, c'est sympathique de travailler jusqu'à 4h du matin parce que pour eux, il est que 22h et qu'on a encore besoin d'être réveillé. Mais c'est pas très tenable. Et donc, au bout d'un moment, tu ouvres un bureau. Et en fait, donc, en fait, j'ai accompagné la croissance a posteriori et pas a priori. La plupart des boîtes, elles se disent, bon, j'ai un software ou autre qui est vraiment sympathique, il faut que j'aille aux États-Unis. Donc, j'ouvre un bureau et je commence à vendre après. Moi, j'ai commencé à vendre bien avant de Paris, quitte à prendre quelquefois l'avion. Et une fois qu'on avait bien vendu, j'ai installé les équipes pour faire le delivery. C'est comme ça que je l'ai fait. La Chine, cas un peu particulier, comme c'est une culture, une langue, etc., très différente, j'ai d'abord ouvert un bureau. Parce qu'en fait, la plupart des contrats chinois sont uniquement en Chine. Donc, je ne peux pas prendre un contrat américain. Le contrat ne se fera pas en Chine parce que tout le monde est un peu monde sauf Chine. C'est un peu comme ça que ça marche. Et réciproquement, Chine sauf monde quand tu es en Chine. Donc, j'y suis allé. J'y suis resté 6 mois. Je me suis rendu compte que c'était un marché très compliqué parce qu'il n'y a pas la même culture, parce que tu n'es pas très bien accueilli pour être transparent, parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais, enfin, ou très peu. Et puis ils négocient, enfin, ils disent oui, le lendemain c'est non, le lendemain c'est oui, divisé par 3, fois 2, fois 4. Il n'y a pas le même sens de ce que c'est qu'un contrat à respecter, etc. Tout ça, c'est compliqué. Culturellement, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, faire des erreurs, c'est normal. Il faut en faire des erreurs, si tu n'en fais pas, c'est que tu n'as pas pris de risque. Il faut juste savoir arrêter au bon moment. Donc, moi, la Chine, je suis allé 6 mois. J'ai perdu beaucoup de temps sur ce truc. On m'a dit de ne pas le faire. Mais les erreurs, il faut les faire soi-même, souvent. J'avais l'impression, et c'était le cas, que j'avais plein de trucs incroyables à faire sur place. J'avais plein de clients. Enfin, on m'avait vraiment ouvert des portes, ça m'avait l'air fou. Et en fait, trop compliqué. Les moyens de paiement, c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas Google. Ils n'ont pas Google Maps. Bah, comme toutefois, tu changes tout ton produit qui a été plugué sur plein d'outils comme ça. Ton acquisition online, elle ne marche pas. C'est pas le même truc. Enfin, il faut parler chinois. Bon, du coup, je me suis dit, en fait, il reste 220-ish pays dans le monde. Bon, en fait, je vais sortir de la Chine.
Pour y revenir peut-être un jour, est-ce que Miro a besoin de la Chine pour atteindre la taille critique ?
Non, il n'a pas besoin de la Chine. En revanche, si c'est un bon marché, il faut y aller. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de cul. S'il y a un marché à prendre, il faut le faire. Là, aujourd'hui, on a ouvert un bureau à Tokyo, Singapour et en Inde. Tokyo pour le nord de l'Asie, Singapour pour la PAC et l'Inde pour l'Inde. C'est des zones fantastiques qu'on leur challenge. En Inde, par exemple, les prix sont très bas. Mm-hmm. Donc, les prix des employés sont plus bas qu'en Europe, mais il y a aussi le prix des prestations et du coup... Dans ton revenu, il ne faut pas que tu aies 2000 personnes qui font finalement un revenu qui est faible alors que dans le reste de ta boîte, tu gères le même revenu avec beaucoup moins de personnes. C'est parce qu'en fait, ça crée plein de complexités. Mm-hmm. Donc, ce sont des sujets qui sont compliqués. Il n'y a rien qui est facile. Mm-hmm. Mais c'était le bon move à faire. La Chine en elle-même, c'est très, très, très compliqué. Il y en a qui arrivent, il y a tout type d'histoires différentes, mais je ne recommanderais pas la Chine comme premier
marché
d'internationalisation, sauf si vous faites de la fabrication, que vous avez besoin d'usines sur place, etc. Ou là, évidemment, c'est un autre sujet. Mais en termes de marché à attaquer, compliqué. Criteo a essayé, ils n'ont pas réussi. Plein de boîtes ont essayé, ils n'ont pas réussi. Google, c'est compliqué. Plein de gens, c'est compliqué pour beaucoup de gens.
Il y a finalement assez peu de littérature comparée à d'autres sujets sur comment croître une entreprise tech à l'international. Est-ce que tu es aidé aujourd'hui dans cette démarche ? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu peux échanger sur le sujet ?
Non, je n'échange pas avec beaucoup de personnes sur ce sujet. Dans la réalité, c'est que monter une boîte, c'est à la fois compliqué et pas compliqué. Donc, quand tu n'y es pas ou que tu veux commencer ta première boîte et que tu vois une personne qui l'a fait, tu te dis, putain, c'est incroyable. Mais dans les faits, tu n'en avais aucune idée toi non plus. Tu as essayé. Et en fait, quand tu es entouré de gens qui ont un cerveau bien fait, tu vois des données arriver toutes les semaines, tous les mois, et puis tu t'adaptes. Et si tu as un cerveau bien fait, etc., en fait, tu avances et tu y arrives. Il n'y a pas un truc magique pour ouvrir
magique, ouais.
Un bureau aux États-Unis. Il faut faire un bon budget, il faut t'y tenir. Avec l'expérience, t'es meilleur, mais tu remplaces pas l'expérience. Moi, c'était un mec qui dit, tu devrais prendre ça. Dans les faits, j'ai vraiment l'impression, parce que moi, je donne beaucoup de conseils à plein de gens aussi, notamment sur la première phase de création d'entreprise, que j'ai fait quand même pas mal de fois, je la connais vraiment bien. Donc, je pense pas trop dire de bêtises. Mais en fait, il faut que les gens fassent leur truc. Et donc, d'ailleurs, avoir un peu plus de cash que prévu, ça permet de pouvoir se tromper et de dire « Ah, effectivement, j'avais tort. » Bon, bah, je... Voilà. Il n'y a pas de... Là, maintenant, je referais les choses aujourd'hui, je les referais très différemment. Ça s'appelle l'expérience. Quand tu écris, toi, un article, je pense que tu l'écris mieux maintenant qu'il y a 15 ans. Tu vas plus vite, tu sais où chercher. Tu sais, quand on veut te la faire à l'envers, tu le sens. Bon, et on a beau te dire, fais gaffe, quand une personne cligne des yeux, on te la fait à l'envers. En fait, tant que tu ne l'as pas vraiment vu, tu ne le sauras pas. Mais c'est exactement pareil. Donc, il n'y a pas de clé magique. Il faut rentrer dedans. Et c'est honnêtement... C'est compliqué, donc on verra dans 5 ans où j'en suis. Il y a énormément de choses compliquées, c'est pas le sujet. La journée est faite de problèmes, mais c'est des problèmes gérables.
Et quand tu as démarré Miro, donc vous étiez plusieurs cofondateurs, est-ce que tu avais cette vision déjà de l'entreprise ? Est-ce que tu savais clairement où tu voulais aller ?
Alors non, je ne savais pas. Par contre, je n'y serais pas allé si je ne pensais pas que je pouvais faire ça. J'avais géré deux boîtes en ce moment, à l'époque, que j'ai encore, mais que je ne gère plus. Je n'ai commencé Miro, donc je me suis remis un troisième fardeau sur les épaules en 2016, que parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet. D'abord, le sujet m'intéressait, les créatifs, etc. C'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et ensuite, parce que je me suis dit qu'il y avait un vrai projet global à avoir. Donc, je n'y serais jamais allé si je pensais que c'était un sujet qui était français. Voilà, ça c'est sûr. Après, tu sais jamais. D'abord, on a commencé à faire des trucs qu'on n'a plus jamais refait d'après, parce que du coup, j'ai commencé avec des fausses bonnes idées sur qui cibler, etc. Donc, en plus, je faisais des erreurs sur la taille de marché, etc. Je me trompais. Donc non, je ne sais, c'est compliqué de dire que je savais. C'est une somme de chance quand même, des trucs qui s'alignent dans tous les sens. J'ai failli couler deux, trois fois. J'ai pas payé les gens pendant plusieurs mois. J'étais en caution perso, sur plein de trucs, des montants énormes, etc. Compliqué de dire que je savais. Mais
j'espère. Il y a vraiment une fois ou deux où tu t'es dit, là, ça va pas le faire.
Non.
Jamais.
J'ai une fois ou deux, je peux pas payer les gens. Où je ne savais pas quand est-ce que je pourrais le faire, si tu veux. Mais je me suis jamais dit que j'y arriverais pas. Non.
Et sur tes précédentes entreprises, tu en as créé combien au total ?
J'ai créé 4.
4. Est-ce qu'elles n'ont pas toutes le même destin, évidemment, mais non. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont craché, enfin, qui ont
arrêté ? La première, je l'ai arrêtée. Elle n'a pas craché, mais je l'ai arrêtée parce que il n'y avait pas de marché, c'était pas bien fait. C'est encore une fois une fausse bonne idée. Bon, après, j'ai eu une petite rupture sentimentale qui m'a aussi détourné de mon travail. Je ne vais pas te mentir, c'était pas seulement pro, mais du coup, je l'ai travaillé pendant 24 mois et c'était une fausse bonne idée. Donc, c'était une bonne idée parce que c'était du crédit, consommation à taux zéro, etc. Et ça avait l'air de plaire aux gens. Et une fausse bonne idée parce qu'en fait, pour le mettre en place, c'était si compliqué que tout le monde s'y perdait. Pour arriver à faire un taux zéro, c'était un peu le bazar. Du coup, faut encore une fois voir rapidement que ça marche pas. Tu donnes tout ce que t'as. J'avais mis beaucoup, enfin tout mon argent dedans. Ça marche pas, t'arrêtes, tu recommences. Et ensuite, j'ai monté une boîte donc, qui s'appelle Digi, qui fait du conseil en digital concrètement. 70-80 personnes aujourd'hui, je ne connais pas le chiffre exact, mais qui marche très bien. Bon, je suis encore président. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Watchdog Systems, une entreprise anti-vol moto. Très différent, là, c'est 3-4 ans de R&D.
C'est du hardware en plus.
Ouais, c'est du hardware. C'est 3-4 ans de R&D lunaire pour réussir à produire quelque chose. On a levé un peu d'argent, enfin beaucoup d'argent d'ailleurs, mais je crois pas que c'était public pour le coup, pour revenir à la première question. Je crois pas que c'est public, donc je vais pas en parler. Et on sort les premiers anti-vol de moto connectés, du coup, là, à Noël ou juste après Noël. Et ensuite, j'ai monté Miro en 2016, très légèrement après. Voilà, donc tout pas le même destin, mais les autres sont des. Parce qu'il n'y a pas le même marché, mais les autres sont des. C'est des réussites en réalité, hein. Avec d'autres types de galères. Et
les
problèmes.
Investisseurs sur Miro.
Qui font du cash, c'est pas pareil, ils gagnent de l'argent.
Ils gagnent déjà de l'argent. Ouais. Les investisseurs sur Miro, ils voient ça comment ? Le fait que tu sois éparpillé, bon, c'est une manière de dire que tu fais plusieurs choses en même temps, mais le fait que tu ne sois pas 100% focus sur Miro parce que tu as d'autres sujets à côté, est-ce que ça les dérange ?
Bon, déjà, en plus de ça, j'ai des boards, hein. Je suis dans des boîtes.
Oui, parce que tu investis.
Je suis dans des boards. Honnêtement, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, je pense que c'est important. Bon, une semaine, on va dire qu'à ses 70-90 heures, une semaine de travail à peu près normale. Bon, si je passe sur, allez, mettons 75 heures, j'en sais rien. Si je passe 75 heures, je passe 5, 6, 7 heures sur d'autres sujets. Honnêtement, ça ne change absolument rien à Miro. Donc, sûrement, si t'es Elon Musk qui gère carrément 3 boîtes en même temps, enfin 2 boîtes et demie en même temps. En réalité, je trouve ça arrière l'esprit. Ça me permet de voir plein d'autres choses. Plein d'autres problèmes, d'être confronté à d'autres types de. Donc, je suis dans des boards avec d'autres CEO, d'autres problématiques, d'autres trucs tech, d'autres façons de gérer les ventes, etc. etc. Donc, j'apprends pas mal de choses. Je pense pouvoir apporter, pas des conseils, mais des avis en tout cas qui diffèrent. Donc, j'espère pouvoir apporter un petit peu à chaque fois. Et moi, en retour, je vois d'autres équipes, d'autres mindsets. Honnêtement, ça apporte plein de choses. Sur ma boîte que j'ai, que je préside, qui s'appelle Digi, on court après les bits. Donc, c'est une logique qui est très différente. Mais cette logique, au bout d'un moment, il faut que je l'arrive à l'avoir sur Miro. Donc, ça fait que je connais déjà un sujet et je vois un peu les difficultés d'avoir de les bits en pourcentage de chiffre d'affaires, les contraintes, les optimisations qui, en fait, ont l'air simples sur le papier, mais qui, dans les faits, sont compliquées parce que tu n'arrives pas à traquer tel et tel truc. Je pense vraiment que ça apporte beaucoup et ça en aucun cas ne m'empêche de faire ce que je dois faire chez Miro. Enfin, franchement, ce serait absurde. Maintenant, quand tu fais une levée de fonds, ils t'embêtent avec ça.
Bah oui.
Parce qu'ils ont peur que, néanmoins, s'ils te mettent de l'argent, c'est pour que tu travailles. Hein. T'es un peu le cheval, le cheval qui court pour tout le monde. Donc, faut pas que tu passes ton temps à côté. Donc, ils te mettent des clauses en disant que t'es pas le droit de travailler plus de quelques heures par semaine. Voilà. Et c'est normal. Voilà, c'est normal. Ouais. Maintenant, non, aujourd'hui, je pense que ça m'apporte beaucoup. Ça m'est à l'esprit. Quand parfois sur Miro, ça va pas, qu'il y a des problèmes, etc. Hop, je vais sur une autre boîte pendant 2 heures, 3 heures et tu respires un peu, puis tu reviens dans ton quotidien et je pense que c'est bien.
Si on revient à Miro sur la trajectoire, donc, tu le rappelais tout à l'heure, les investisseurs sont là pour avoir un retour. Donc, un retour à un multiple, donc fois 5, fois 10, si la trajectoire se passe bien. Qu'est-ce que tu vois comme avenir? Quelle porte de sortie tu peux leur offrir et quelle est ta vision là-dessus aujourd'hui?
Donc, moi, effectivement, il y a des clauses de liquidité dans un pacte d'actionnaires. Donc, à horizon de mémoire 5 ans pour ce dernier tour, ils ont le droit d'actionner une sortie, et donc de forcer une vente, enfin, en tout cas, de forcer le fait qu'ils sont rachetés à un multiple de valo à décider. Donc, il y a trois solutions. Soit c'est la boîte qui rachète leur part. Donc, il y a un fonds, je ne sais pas, qui a mis n'importe quoi, 30 millions. Ça en vaut 100. Ils disent, moi, ça fait 5 ans, j'ai besoin de liquidité pour refaire un fonds. Bref, peu importe. Il faut qu'ils sortent. Et du coup, il peut activer une clause de sortie. Donc, la trois solutions. Soit c'est la boîte qui a de la liquidité, 100 millions, et qui dit, bah, OK, je te rachète 100 millions, je reprends tes parts et fine. Peu probable que j'ai ce montant de liquidité, parce que ça veut dire que je dois faire beaucoup d'EBIT. Et or on... Il faut quand même faire un choix entre croissance et EBIT. En réalité, c'est assez mathématique. Quand tu crois à la vitesse de Uber, si tu veux, tu ne peux pas avoir de l'EBIT en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu passes de... Je me souviens plus de chiffre d'affaires, mais quand tu passes de 8 milliards d'euros de chiffre, je crois, à, je sais pas, 12, bah les 4 milliards, pour gagner 4 milliards, ça veut dire que l'année d'avant, tu avais commencé à embaucher plein de personnes pour que l'année d'après, tu fasses cette croissance. Ce qui fait qu'ils ont des EBIT très négatifs. Mais les gens, ils mettent sur la même, en fait, sur la même colonne. Alors, en fait, ils n'ont pas d'EBIT négatif pour faire ces 8 milliards, ils ont d'EBIT négatif pour faire les 12. Donc les gens, les journalistes, parfois, ils alignent mal les planètes. Bon, du coup, je n'aurai pas 100 millions dans 4 ans, 5 ans, probablement, pour sortir une personne, voire plutôt quelques milliards, si tu veux, pour sortir tout le monde en même temps. Du coup, j'aurai deux choix. Trois choix. Un, je vote auprès de tout le monde que c'est un peu trop tôt et qu'il faut me laisser encore 3-4 ans ou 5 ans, peu importe. Et tout le monde est d'accord, on voit que la valeur n'est pas encore au bon endroit, qu'il reste encore du travail à faire et tout le monde est d'accord et on avance. Et du coup, potentiellement, tu peux durer comme ça pendant très longtemps. Ou alors, deux solutions existent, tu fais un exit. Et donc, cet exit, c'est tu vends ta boîte à un acteur qui est prêt à la racheter. C'est pas un truc qui me plaît beaucoup, ça, parce que j'aime bien être chez moi, entre guillemets. Je me vois pas assez. À voir, si l'offre est belle, si l'entreprise est belle, qu'il y a des vraies synergies et qu'on va tous dans le même sens, c'est un peu le blabla que t'entends chaque fois qu'il y a un rachat. Mais ce blabla, il peut être vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir envie d'être racheté par, je dis n'importe quoi, par Microsoft et pas par la RATP. Tu te dis, la RATP, c'est pas trop un mindset et une culture qui va nous correspondre. Microsoft, je sais pas. Bon. Du coup, potentiellement, si la mission, bon là, il se trouve que la mission de Microsoft n'a pas l'air proche, mais si la mission, tu as des compétences, tu as plus de cash, etc., ça peut se faire, même si c'est pas ce que je prie, franchement, pas ce que je priorise. Ou alors, tu fais une entrée en bourse. Et l'entrée en bourse, que les gens savent pas, enfin, on savent peu, c'est quand tu fais une entrée en bourse, c'est une levée de fonds, une entrée en bourse. C'est juste que c'est public c'est et public. Pas privé. C'est juste la seule différence. Mais en vrai, c'est pareil. Tu fais un roadshow, tu vois des banques, etc., qui sont prêts à investir pour toi. Et donc, quand tu te valorises, dis n'importe quoi, 5 milliards, eh ben, il y a 20% qui est libéré. Et en fait, avant ton entrée en bourse, t'as convaincu les investisseurs de mettre 1 milliard, si tu veux. Et dans cette partie-là, t'as une partie secondaire, sur laquelle, ou alors plus tard, bref, peu importe, dans laquelle les investisseurs ont le droit de sortir. Soit en secondaire tout de suite, soit 6 mois après, ils ont le droit de vendre. C'est assez charté pour éviter que la valeur de la boîte descende, parce que si les gens se mettent à vendre
en même temps,
mais si on part en même temps, la valeur de la boîte descend factuellement, donc faut faire attention à ça. Mais voilà, et donc c'est soit une IPO, excuse-moi pour les longues réponses,
c'est important de comprendre, encore une fois.
C'est soit une IPO, donc une entrée en bourse, soit une vente, concrètement. Mais à 5 ans, j'aurais l'obligation de trouver une solution.
Mais ça, en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te motive cet objectif-là?
En tant qu'entrepreneur, j'ai envie de connaître ce que c'est. Ça veut dire quoi faire une vente? C'est des moments de stress très compliqués, etc. Ça veut dire quoi faire une entrée en bourse, etc. C'est des sujets que tu as envie de connaître et d'apprendre. Parce qu'il y a le lire dans la presse ou dans un livre et il y a le vivre. En réalité, tu ne sais pas vraiment ce que c'est tant que tu n'as pas fait quelque chose. Tu peux dire, je vois ce que c'est le métier de journaliste. Tant que tu n'es pas journaliste, tu ne sais pas ce que c'est. Bon, donc c'est un peu ça. Après, titre perso, ça ne m'excite pas plus que ça, non. D'abord, j'ai rencontré plein de PDG qui ont fait des entrées en bourse. Tout le monde est relativement triste dans sa vie. Non, mais parce qu'en fait, tu deviens un peu un relation de presse plus où ton métier, c'est de faire en sorte que ton cours de bourse ne descende pas. C'est ton métier, c'est ton seul vrai objectif, c'est celui-là. On t'emmènera pas si ton cours de bourse tombe pas, sinon tu vires. Donc t'as du stress, etc. Et du coup, comme tu dépends d'un mec à Londres qui écrit une note de presse, enfin un broker qui écrit une note de truc sur lequel il a l'impression, pour je sais pas quelle raison, que que ta croissance elle est fausse ou que en fait ça machin, t'as un mec qui publie un truc comme ça, la branle-bas de combat, tu te lèves un lundi, c'est catastrophe, t'as perdu 6%, etc. Bon. Donc c'est des vies qui sont compliquées, tu dépends de personnes qui connaissent pas ta boîte et qui font des notes, qui donnent leur avis. Et ton cours fluctue en fonction de ça, et donc ta vie, ton humeur, ton quotidien fluctue en fonction de ça. C'est pas des vies très marrantes, pour être franc. Donc moi, j'ai pas spécialement envie d'être.
T'es pas pressé de
gérer pendant 5 ans une boîte qui est publique, sur laquelle tout ce que tu fais est regardé. Tiens, c'est quoi cette dépense? Ah, t'as fait tel truc. Plus t'es public, plus la moindre affaire, la moindre affaire de ta boîte est regardée et jugée. Donc t'as des articles qui sortent, t'as vu Work. L'enfer qu'il prend, ce monsieur, bah, il n'est pas public, mais il voulait l'être. Bon, il a juste raison sur plein de petits sujets où il a fait un peu n'importe quoi, mais sur plein de trucs, il y a des articles qui sortent, ah, l'ambiance, c'est WeWork et machin, etc. Et puis, tout a l'air terrible, et en fait, tu n'as pas de réponse. Et dans l'ensemble, tu peux quand même te faire un peu défoncer. Ouais. C'est pas des vies très, très. C'est des vies très stressantes. Donc, est-ce que j'ai envie d'y aller? Honnêtement, non, je suis bien là où je suis. Là. Entrepreneur en parlant, tu as une expérience. Est-ce que j'ai envie de savoir ce que c'est que de faire entrer en bourse, ce genre de choses? Il y a un petit côté excitant, mais c'est vraiment temporaire, quoi. Ouais. C'est pro, pas perso. Perso, j'ai aucune envie.
Mais on le voit bien avec Uber, WeWork, toutes ces entreprises pour lesquelles la culture a été pointée du doigt, souvent via le fondateur. Comment toi, tu arrives à faire croître une entreprise avec autant de rapidité? Vous êtes combien déjà aujourd'hui, Amiro?
On est 800.
Vous êtes 800. Comment t'assures, en fait, que la culture, il y a un socle culture pour tout le monde et que ça aille tous dans le même sens?
Alors moi, c'est pas tant le problème que d'assurer la culture, c'est ce que ta culture doit changer à cause du nombre ou du fait que tu sois public. On en parlait en off un petit peu avant. Il y a vraiment la loi des nombres. Quand t'es 800, bah, t'as 1% des gens qui sont pas contents, voire qui sont nocifs. C'est comme ça. T'auras parfois 2%, 3, 4, bref, peu importe. C'est statistique. Tu vas avoir des cas de harcèlement. Quand t'as 800 personnes, tu vas avoir peut-être 1%, 0,5%, tu vas avoir 3, 4, 5, c'est comme ça. Tu n'y couperas pas. Et donc, ta culture, qui à la base, quand tu es 30, est hyper sympa, hyper fun, tu fais des soirées, tu fais etc. Toi-même, tu peux boire un peu trop de temps en temps, tu fais des blagues graveleuses, tu fais des blagues avec de l'humour noir, mais tu les connais tous, c'est des potes à toi. Quand tu es 30, même si les employés, au quotidien, ça, tu peux avoir des relations amicales en réalité. Et donc, tu fais des blagues avec de l'humour noir, des blagues racistes, etc. Enfin, entre amis, en fait, quand tu es 800, et au demeurant, ou a fortiori quand tu es 10 000, tu peux pas. Le problème, c'est que tu connais plus les gens et que tout le monde n'a pas le même humour, etc. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes la culture de la boîte ou est-ce que tu acceptes le fait qu'il y a 1% de gens qui, en réalité, vont pas être contents, vont mettre des commentaires sur Glassdoor désagréables? Parce que tu peux parler d'un commentaire qui avait été désagréable, d'ailleurs, il y en a plusieurs, sur Miro, sur le site d'employés Glassdoor, etc. Et tu vas avoir des articles de journaux, parce que tu as deux personnes de la boîte qui vont envoyer un truc à deux articles qui vont écrire un truc horrible. J'ai un article récemment qui disait qu'il y avait des poèmes dans la boîte qui étaient faits à la gloire du patron, à mon encontre.
Tu les as lus?
Ce qui est n'importe quoi. Il y a eu un truc qui a été fait comme ça, mais c'était une blague pour un truc, en bref. Qui en aucun cas était mon fait. Enfin, évidemment, c'est pas du tout. Bref, donc les gens écrivent des trucs. Et donc, le public lit des choses et se font un avis négatif. Et tu vas dans un comptoir et t'as un mec qui va te dire, putain, chez Miro ou n'importe quelle autre boîte, c'est quand même bizarre la culture d'entreprise. Il paraît que. Voilà. Et donc, à quel point t'abîmes ta culture que tu trouves cool, t'es content d'aller au bureau parce que c'est une ambiance un peu sympa, qui est décontracte et qui voilà. Parce que tu sais qu'en restant comme ça, il y a 1%, 2% de gens qui vont dire des choses négatives dessus, que ça peut t'atteindre. Et quand t'as un article désagréable qui sort là-dessus, t'as des investisseurs qui t'envoient des mails, c'est quoi cet article, etc. Et donc c'est compliqué à gérer. Moi j'ai pris le choix pour l'instant, et peut-être que je vais changer ce choix au bout d'un moment, de garder la culture telle qu'elle est, même si ça veut dire qu'il y a quelques échos négatifs de personnes qui sont pas contentes de ça, ou qui se sont fait virer par exemple, et qui du coup crachent dans la soupe. Pour l'instant j'ai décidé de garder ça. J'ai eu 2-3 trucs un peu embêtants à ce sujet-là. Quelques articles, quelques trucs, quelques commentaires, etc. Quelques échos... Hier, je voyais un ami qui m'avait dit qu'il avait entendu un truc à tel sujet, donc j'écoute ça, je sais que ça encore. J'ai fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a vraiment une belle bande de personnes dans cette boîte qui a un bon esprit, quoi. Je suis content. En fait, je suis assez fier de la culture qu'on a créée. Vraiment, tout le monde peut, à titre personnel, me parler. Moi, je peux parler à tout le monde. Il n'y a pas de gêne. Les sujets, on tranche dans l'arc quand il y a un problème. Et on peut s'engueuler à 18h parce qu'il y a un mec qui a fait n'importe quoi. Et puis. Puis à 21h, on prend une bière et on est dehors, on n'en parle plus et on en reparlera demain matin. Quoi. Et je trouve ça sain. Voilà. Ça implique ce que tu viens de dire. Ça implique des boîtes comme WeWork, tu as vu les commentaires, et dont tu lis 3 articles de TechCrunch. Et en fait, peut-être que dans les faits, c'est complètement faux. Et qu'il y a juste quelques ex-employés qui ont fait un avis négatif, mais qu'en fait, c'est plutôt cool. Ça implique ça.
Mais ma question, c'est est-ce que toi, titre personnel, tu pourrais devenir un dirigeant d'une entreprise en étant plus. peut-être plus dur ou en tout cas moins impliqué émotionnellement vis-à-vis de tes employés et vraiment t'en détacher?
Alors, bon, d'abord, j'ai dû malgré tout changer 2-3 trucs. On en parlait encore une fois parce qu'on a eu, on a eu sujet juste avant, avant le micro. Parce qu'on parlait de sujets perso. D'abord, moi, je peux pas faire, je peux plus faire non plus la même chose. Au bout d'un moment, faut pas déconner. T'as des personnes que tu connais pas du tout, très large majorité d'ailleurs, et tu peux plus, comme tu faisais quand t'étais 4 potes dans un bureau, aller prendre 6 pintes, et parce que c'est plus possible. T'as une image un peu publique en interne, tu veux, et tu peux pas faire n'importe quoi. Donc tu changes un peu. C'est pas pourtant que tu changes la culture. Tu changes toi, à titre perso, tu peux plus faire la même chose. Attends, redis-moi ta question, excuse-moi.
Donc la question c'était est-ce que tu peux devenir, est-ce que tu penses que tu peux ou dois devenir un dirigeant plus dur et plus détaché vis-à-vis de ton équipe?
Donc d'abord un, le comportement c'est adapté dans tous les cas, après ensuite c'est pas que t'es détaché quand tu gères 800, 1000 personnes. Bon, d'abord c'est pas tant des personnes que des revenus, mais quand tes revenus deviennent très élevés, tu peux plus, tu gères plus les sujets à bout de bras, en fait, tu connais pas les gens en fait d'ailleurs. Du coup, au bout d'un moment, c'est plus le même métier. Tu commences à gérer les sujets avec des données. Tu as des reportings qui sont très longs, très compliqués, très détaillés, etc. Et tes prises de décision, elles sont faites plus sur l'humain. Elles sont faites sur des données où tu te rends compte, tiens, à Tokyo, mon coût d'acquisition de tel truc, ma marge, tel machin, etc. n'est pas bonne. Il y a un problème. Il faut qu'on regagne 10 points, qu'on perde de l'argent, c'est pas bien. Et du coup, tu prends des décisions qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens. Fait, donc, ce sont des données. Donc, forcément, t'es plus détaché. Parce que, potentiellement, tu vas augmenter le salaire de 2 personnes, ou le baisser, ou changer des trucs, etc. Ou licencier des personnes, etc. Et tu le fais parce que c'est juste mathématiquement ce qu'il faut pour la boîte. Mais du coup, tu ne connais même pas la personne, donc t'es forcément plus détaché. Donc, les personnes que tu connais bien dans la boîte, mettons les 100 premières personnes, t'es tout le temps, toujours aussi attaché, etc. Mais, ton métier devient plus détaché. Après, je dis toujours, et en interne, tout le monde le sait. J'ai toujours en pro, il ne faut pas mettre de sentiments. Une personne avec qui que tu connais très très bien, qui est devenue ton ami, tu sais que je travaille avec mon frère,
oui.
etc. 2 ans après, si c'est plus la bonne personne, c'est plus la bonne personne. Point. Donc ça veut dire que cette personne-là doit sortir. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'accompagner, que tu peux pas l'héberger chez toi pendant 4 mois, lui trouver un boulot et que ça reste ton ami. Il y a des bruits d'enfants parce qu'il y a un enfant derrière.
C'est très bien, c'est vivant.
Ça veut pas dire que qu'il ne faut pas faire les choses avec humanité, c'est très différent. En revanche, les décisions doivent être froides. Sinon, c'est toute la boîte qui tombe. Donc, une personne qui n'est pas la bonne personne, un groupe de personnes, un département qui, en fait, tu sors le e-commerce, tu changes l'e-commerce. En fait, l'e-commerce ne fonctionne pas. Ça va fonctionner, très honnêtement. Je vois mal les choses autrement. Mais mettons, par exemple, s'il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Si du coup, ça implique 20 personnes, il faut les aider, les accompagner. Humainement, il ne faut pas du tout dire allez, tiens, salut. Mais en revanche, il ne faut pas y mettre de sentiments. Il faut. Parce que si tu fais ça 2-3 fois de suite, tu perds de l'argent, c'est toute la boîte qui empathie. Au lieu de, par exemple, hein, ce qui n'arrivera pas, mais j'espère en tout cas, je pense pas, au lieu de licencier 20 personnes, 12 mois après, tu en licencies 200. Donc il faut être très froid sur ces décisions. Voilà, il faut pas, et même si c'est ton meilleur ami.
Et ça, tu es à l'aise avec ça, certaines personnes peuvent être mal à l'aise avec
répété,
ça.
Je l'ai répété 50 fois à tout le monde, parce que du coup, encore une fois, il y a des personnes qui sont des amis dans la boîte, je l'ai répété 50 fois. Vraiment, genre, les gars, on est au pro. Perso, il y a un an, il y a une personne qui est mon ami dans la boîte qui est vraiment dans une boucle de mail, a vraiment pété un boulon sur un sujet, notamment à mon égard, pour un, peu importe. Et là, je l'ai appelé tout de suite, j'étais obligé de dire, tu peux pas faire ça. Là, tu m'as envoyé un mail, t'as l'adresse Miro, et genre la boîte, tu peux pas faire ça. C'est pas possible, en fait. C'est un cadre pro. On se voit ce soir, on prend une bière, t'es autant énervé que tu veux, tu m'insultes tous les noms que tu veux, il n'y a pas de problème, tu peux pas faire ça au boulot. Il a compris, il a fait en fait t'as raison, on en reparlera ce soir et je suis désolé. Bon, il faut vraiment dissocier le pro du perso, même si c'est ton meilleur ami, même etc. Ça reste du pro. Si tu veux que ta boîte tourne, les sentiments n'ont pas leur place. Vraiment, je le pense et je le dis.
Et comment tu fais pour organiser ça dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te prend le plus de place aujourd'hui? Parce que finalement, tu gères l'humain, tu gères 800 personnes, tu gères des clients, donc tu gères des photographes indépendants qui sont sur la plateforme. Donc qu'est-ce qui prend le plus de temps aujourd'hui dans ta vie pro?
C'est pas la gestion des humains, puisque du coup, par la force des choses, c'est plus moi qui les gère. T'as une DRH, qui n'est pas encore arrivée, qui arrive, mais t'as un directeur des opérations, t'as plein de trucs comme ça qui font au final qui gèrent les humains, t'as les managers, etc. Donc je gère plus les humains, donc je gère les humains quand il y a un problème, concrètement. Donc c'est bien heureusement pas si fréquent que ça. Moi, ce qui me prend mon temps, écoute, on a deux têtes de mémoire, 12 départements. Et mon rôle, il est double, hein, c'est d'avoir une vision, donc de dire à la boîte où on doit être dans 12 mois, ce qui n'est pas si facile. Donc, c'est dire dans la boîte en termes de chiffres, il faut être à tel revenu, mais aussi en termes de produits, en termes de ce qu'on va faire pour les photographes, en termes de contenu, en termes de où est-ce qu'on. C'est dans 12 mois, pour arriver à une mission qui a 5 ans, ça veut dire être où dans 12 mois. Ça, c'est mon rôle à moi. Ce qui demande de, d'avoir une vue périphérique, enfin, globale, panoramique, pardon, sur pas mal de. Enfin, sur tous les sujets. Et ensuite, c'est de m'assurer, une fois que ça a été donné, que ça fonctionne. Et donc, c'est d'avoir les 12 départements qui se comprennent, qui se parlent, etc. Il faut comprendre qu'un mec qui gère le SAV, en réalité, il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe côté ventes ou côté, côté technologie. Il n'en sait rien. Or, il faut que tout ça aille dans la même direction. Donc, à un moment donné, mon rôle, c'est de m'assurer que tous les indicateurs vont au même endroit pour des gens qui n'ont pas du tout les mêmes vies. Ça, c'est mon rôle au quotidien. Et ça fait 12 personnes. Et ça fait beaucoup de travail. Hein. Ça fait beaucoup de reporting, beaucoup de... Voilà. Accessoirement, après, j'ai un board à gérer, etc. Donc, ça fait des travaux assez conséquents. Des pays à gérer. Bon. Voilà, mais c'est ça mon rôle à moi.
Ton rôle, ça va être le cas au sein de Miro encore quelques années. En tout cas, c'est comme ça que tu l'imagines. Et j'ai, c'est l'objectif. Tu es encore jeune, tu as 32 ans. Comment tu te vois, toi, dans 10 ans? Est-ce que tu te vois encore à la tête de Miro? Est-ce que tu te vois encore créer des entreprises? Est-ce que tu te vois ne plus rien faire? Voilà. Comment tu t'imagines au plus long terme? Est-ce que tu y penses déjà?
Tu sais où t'es dans 10 ans, toi?
Non, mais en tout cas, j'essaye d'avoir des envies, en tout cas.
Je sais pas, 10 ans, c'est loin. La première réponse, c'est que je sais pas si je serai en vie. Donc, j'essaie de pas trop me poser des questions comme ça. Je les trouve assez... Je me suis longtemps posé des questions à long terme. En stressant, je sais pas, si t'as pas une femme à 80 ans, c'est triste. Bon, mec, en fait, j'ai appris qu'il fallait que j'arrête de me poser ce genre de questions parce que tu peux être mort 32 fois avant. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que je serai chez Miro? Je ne sais pas. J'ai l'impression, mais c'est pas sûr. Dans tous les cas, je serais probablement en train de monter des boîtes. Ouais. J'ai des sujets qui me passionnent. Autres.
Lesquels?
L'eau, par exemple. J'ai une bonne idée de. Enfin, je commence déjà à bouquiner sur des sujets qui sont très différents à apprendre. Enfin, si tu veux, mon MBA sur des sujets autres pour pouvoir potentiellement me mettre dessus de façon entrepreneuriale dans 10 ans, si tu veux. Maintenant, j'essaie de ne pas me poser la question. J'ai du mal à savoir où je suis dans un an. Donc, on verra.
Non, mais voilà. si on
j'espère avoir des enfants et avoir une femme et que ça se passe bien, surtout. C'est quand même ça la vie.
C'est quand même ça la vie. Il est trop chou. Hein. Il y a un petit enfant à côté de nous, il nous regarde. Il est
et ce
chou.
N'est pas le mien. Et voilà.
Pour couper court à toutes les rumeurs potentielles qui pourraient arriver.
Ce n'est pas le mien.
Il y a des sujets quand même qui te préoccupent. Aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment d'environnement, d'entreprises à impact. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui t'animent en dehors de celui de Miro aujourd'hui? Puisque voilà, il faut arriver à être... À pouvoir envisager le monde pour nos enfants, notamment de manière plus tranquille et apaisée qu'il ne l'est aujourd'hui. Encore une fois, il y a des sujets qui t'animent sur lesquels tu aimerais agir? Tu parlais de l'eau, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, pour l'environnement, je peux rentrer sur ce sujet pendant 50 ans, mais pendant très longtemps, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit très bien traité, pour être franc. C'est-à-dire que tu vois des outils qui te permettent de gérer ta gestion de ta douche pour dépenser moins d'eau, mais ça va représenter 0,001% de l'eau et qu'en fait, pour l'instant, t'as des vaches qui s'en abreuvent de l'eau et qui, évidemment, bon, bref. Donc, j'ai pas l'impression que, j'ai une sorte d'un peu l'impression que c'est orienté marketingement vers certains usages et pas d'autres. Alors, quand tu regardes, encore une fois, faut gérer des données. Tu regardes sur 100 tonnes d'eau, où sont les dépenses, et c'est pas du tout dans ta douche. C'est 90% sur l'agriculture. Bon, j'ai pas les vrais chiffres, j'ai pas une n'importe quoi, mais sur l'agriculture, 30%. Bon, du coup, je fais attention en tout cas à ces sujets. Pareil pour le réchauffement climatique. Hein, j'ai fait un article pour les Échos sur le CO2 et le fait que Bosch devenait carbone neutre. Comme tu le sais, parce que tout le monde le sait maintenant, c'est un peu un chiffre que tout le monde sait, mais l'agriculture, ça représente autant que l'intégralité de tous les transports annuels, quoi. Avion, train, machin, etc. Et pourtant, on continue à bouffer de la viande autant qu'avant. Bref, donc j'ai quand même l'impression que les sujets parfois sont pas très bien traités. Après, à titre perso, moi, les sujets qui me passionnent, il y en a trois. Je vais dire des grands mots sans rentrer dedans, mais l'espace. Donc, tu regardes un peu, il y a des livres sur le sujet un peu partout, là, sur la physique. Bref, donc l'espace, l'eau. Mais pourquoi l'eau me passionne? Parce que c'est très probablement, j'essaie de ne pas être catastrophe, dans la vision, mais à horizon 50 ans, ça risque d'être quand même un des plus gros problèmes de la planète. Le problème, c'est que tout le monde dit que tel sujet et tel sujet vont être un des plus gros problèmes de la planète. Du coup, si tu commences à regarder ça comme ça, t'as l'impression qu'on va tous mourir en 50 ans. Donc non, mais côté eau, il y a un vrai sujet quand même. Donc c'est bref. Donc moi, c'est un sujet qui me passionne. Après, je suis très passionné par les biotech, hein. Par la génétique. On en a encore une fois un peu parlé. L'évolution de la génétique, c'est des sujets qui sont passionnants. Aujourd'hui, la médecine, elle est pas préventive, elle est guérie. Donc tu sais que si t'as un rhume, faut que tu prennes tes médicaments. Mais personne se demande, tiens, t'auras quand un rhume, si tu veux. C'est un peu ça le sujet. Et concrètement, avec l'évolution de la génétique, on commence à pouvoir comprendre individu par individu.
Et tu prends un médicament qui n'est pas ciblé en plus. Tu vas prendre un médicament.
Et tu prends un médicament qui est générique. Ouais. Exactement. Alors qu'en fait, tu pourrais savoir ton type de génome. Enfin, bon, c'est pas que le génome, mais qui définit ton individu. Mais en tout cas, en rentrant sur ces sujets-là, t'as tel et tel truc qui fait qu'en fait, tu sais que t'as tel risque et tel machin, etc. Tu pourrais traiter en amont, pas en aval. Et c'est vraiment passionnant et ça guérira beaucoup, beaucoup de maladies génétiques ou non à l'avenir, et je trouve que c'est des sujets passionnants. Donc c'est les trois sujets vraiment que je regarde. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu me verras tout le temps avec un livre ou etc. qui parle d'un de ces trois sujets.
Un livre papier.
Papier en général, oui.
Ouais. Ouais.
J'aurais du mal à arrêter le papier. Je lis d'ailleurs les Échos tous les jours.
En papier ?
En papier. Ah, et j'aurais du mal à arrêter le papier. Je trouve que j'ai un attrait. Ça sent bon. Ça, je sais pas. Je trouve ça plus sympathique qu'un téléphone. Voilà.
Et par rapport à tout ça, tu as fait une incursion en politique. Tu as fait une petite incursion en politique.
Grosse
incursion en politique il y a 10 ans. Ma question finalement, c'est est-ce que déjà ça t'intéresse d'y revenir à un moment donné ? Est-ce que tu penses que les problèmes que tu décris, les grands problèmes du monde, peuvent être plutôt résolus par les politiques, le politique, ou plutôt par l'initiative privée ? Il y a un gros débat en ce moment.
C'est vraiment une question que je me pose, parce que du coup, c'est un sujet qui m'intéresse, la politique, où j'ai fait quelques conneries d'opinion, en tout cas quand j'étais plus jeune, mais c'est passionnant. Le problème du politique, c'est que ça demande l'accord de tout le monde tout le temps et que t'as pas beaucoup de leviers. Bon, d'abord, quand tu veux changer drastiquement les choses, ça finit en grève, à tort ou à raison. Donc le politique a des marges de manœuvre qui sont compliquées parce que t'as tout le monde dans le même sac et il faut que tu trouves une façon de plaire à tout le monde, ou en tout cas que tout le monde y retrouve quelque chose. Et c'est pas facile. Du coup, très compliqué de politique. Bon, là, on parlait tout à l'heure des médias. Voilà, tu peux, et puis, récemment, t'en prends pour ton grade, qu'importe le bord. Ouais. Et donc, tu parles d'environnement. Donc, là, il y a la COP en ce moment. Là. Ça patine, quoi. Quand t'es dans le privé et que t'es maître à bord, tu fais ce que tu veux. T'es bon ou t'es pas bon, mais tu peux avancer. J'ai parlé plusieurs fois d'Elon Musk, c'est un mec que j'admire pas mal. Il a fait changer le spatial de façon étonnante. Il a baissé les coûts, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, même s'il perd beaucoup d'argent pour l'instant. Et il a fait avancer l'électrique, le moteur électrique. Vaste sujet, ça aussi, mais peu importe. Mais je veux dire, concrètement, plutôt que de dire faut passer à l'électrique en mettant des bonus, etc., il s'est dit je vais trouver une façon de produire des moteurs électriques moins chers. Et donc de faire at scale et tout le monde est rentré dans la boucle. C'est vraiment lui qui a lancé le mouvement de créer des voitures électriques. Bon, les moteurs ils sont pas parfaits, comme tu sais, ça va sûrement changer prochainement, en tout cas dans les 20 prochaines années, mais c'est le particulier qui l'a fait, c'est pas l'entreprise. Et en réalité, si tu regardes toutes les innovations majeures dans le monde, c'est quand même très fréquemment l'entreprise qui l'amène. L'État lui pose des cadres de loi. Il y avait 2 semaines de congés payés, on est passé à 5, les retraites, etc. Donc ça, c'est des cadres sociaux. Et ça évite, parce que si l'entreprise fait tout seul, c'est pas possible, parce que l'entrepreneur ou l'entreprise va vouloir maximiser, c'est son rôle, ses revenus, ses profits, et souvent au détriment d'autres personnes, parce que ça n'arrive pas dans sa mission. Et du coup, l'État lui pose des cadres pour que tout se passe bien. Donc ça, oui. Après, derrière, les innovations viennent quand même souvent d'entreprises. On peut en citer une cinquantaine, si tu veux. Ça vient de l'entreprise. Tout ce qui nous entoure, en fait, toutes les techniques que tu vois qui font que toi et moi, on a une télé, on a accès à l'information, on a l'électricité, on a Internet, etc. Tout ça, ça vient de l'entreprise.
Donc, on t'imagine plus continuer à être dans le monde privé que public.
On verra, faut pas dire. Mais je trouve le monde privé passionnant. T'as moins de moyens, mais paradoxalement, avec ce peu de moyens, tout le monde doit se mettre à une table et trouver comment, avec 4 millions d'euros, tu crées des toilettes en Afrique qui fonctionnent, quoi. C'est pas 4 millions, du coup.
C'est un peu plus.
Oui, je veux dire, dans l'idée. Ouais. Et de façon saine, et sans que l'argent soit gaspillé, parce que t'en as pas, ou t'en as moins, ou t'es contraint. etc. T'as pas de bureaucratie, enfin tous ces trucs-là, quoi. Quand t'es dans l'État, c'est terrible. Hein. Tu mets 100 millions sur un sujet, ça se disperse dans les régions, les départements, les mairies, les machins, etc. C'est terrible. Donc l'argent public est beaucoup moins efficace que l'argent privé. C'est pas compliqué, en fait. C'est que l'argent public, tu donnes 1 milliard en public, tu donnes 1 milliard au privé, l'argent public est beaucoup moins efficace. Alors après, ils peuvent tacler des sujets que le privé ne peut pas. Voilà, notamment tout ce qui est social. L'hôpital, ça, et, bon, je remets pas ça en question. Mais pour l'avenir de l'humanité, j'ai l'impression ça passera par le privé.
D'accord.
Même pour l'environnement, ils se sont engagés là, à réduire de 35% leurs émissions à raison 2050, etc. etc. Tout ça, ça passera par une vraie volonté privée et in fine par le consommateur. C'est le consommateur qui drive. Si McDonald's a un logo vert maintenant et pas rouge, c'est pas parce que McDonald's est devenu écolo. C'est parce que les consommateurs vont voir de l'écologie, enfin de quelque chose d'environnemental, donc McDonald's s'adapte. Donc au final, en fait, ça revient à ce que veulent les peuples, de toute façon. Voilà.
Et une dernière question sur voilà, Thomas Rebaud, aujourd'hui, tu serais pas chez Miro ou tu aurais la possibilité d'avoir une deuxième vie de tes doublés. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu serais où?
Bon, j'évolue beaucoup dans le temps. J'étais pas pareil il y a 10 ans, mais je pense qu'on est tous comme ça. Je me rends compte de plus en plus que je serais plus heureux en présence. Bon, je vais dire un truc complètement cuculapraline. J'ai un truc qui me manque vraiment, c'est d'être proche de. Je vais dire un truc bizarre, mais d'être proche de la terre et des animaux. Proche de la terre, parce que je l'ai jamais été. Du coup, si on m'entend, c'est un peu bizarre. Et proche des animaux, en fait, le seul moment de ma vie où je suis vraiment, vraiment heureux, c'est quand je suis entouré. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est quand je suis entouré d'animaux. Chien, chat, cheval, singe, lion, ce que tu veux. Ça me rend vraiment content. Donc, potentiellement, j'irais faire ça à un moment donné de ma vie, hein, à mon avis. Peut-être pour toute ma vie. Ou si j'avais pas été là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie professionnelle, je pense que je serais dans le Vercors avec des vaches.
Voilà. Ok.
Et potentiellement, c'est peut-être là où je finirais d'ailleurs.
Eh ben, c'est noté en tout cas. C'est écrit. Voilà. Merci beaucoup Thomas et bonne journée.
Merci pour l'interview.
Vous venez d'écouter Take Off, un podcast des Échos, et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des Échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.